Vous écoutez Clotilde Say, vous êtes sur les ondes de Canal M et je ne suis pas seule parce que vous écoutez les voix de service. Si vous êtes attentif, vous avez peut-être remarqué que, avant de recevoir Stéphanie et Louise, j'avais couvert l'actualité du jour dans les journaux montréalais que sont La Presse et le Devoir. Et je ne m'étais pas encore attardée au Journal de Montréal, ce que je vais faire tout de suite. Alors d'abord, à la une, on nous présente les fils Subban, les Subban qui vendent des vêtements. Ils sont tous plus chics les uns que les autres. Alors déjà qu'ils sont pas vilains bonhommes, alors là, je vous raconte pas. Avec leur petit costume, leur petite cravate, puis leur petit nœud papillon. Le piquet, là, le piquet, il en jette. À côté, un tournoi pour les jeunes du Canadien. On parle de hockey, bien sûr, et on parle de 10 recrues à surveiller. Peut-être que mon ami Kevin Breton, qui m'accompagne pour la chronique de sport en toute dernière partie de l'émission, viendra nous parler de cela. Et puis, on nous parle, figurez-vous, de ces fameux cônes orange. Je vous rappelle le petit clin d'œil ce matin de l'ami Stéphane Laporte dans La Presse. Vous savez que Madonna est au Centre Bell ce soir. Alors il a dit « On espère que Madonna va changer de costume et qu'elle va rendre hommage au cône orange ». Alors Montréal, figurez-vous, veut forcer un restaurateur à enlever sa publicité même si un chantier qui dort depuis juin a fait fuir ses clients. Autrement dit, à cause d'un chantier, il a perdu, je ne sais plus combien, quel est le pourcentage de sa clientèle qu'il a perdu parce qu'ils ne peuvent pas se stationner, ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas. Or, depuis le mois de juin, il y a ces cônes oranges qui sont installés et le chantier n'a pas bougé d'une once. Alors évidemment, le monsieur est assez en colère et on peut le croire. Il y a une photo assez incroyable en page 2. Nous sommes à Las Vegas, sur l'aéroport international McCarran de Las Vegas. Et il y a un incendie qui s'est déclaré en fin d'après-midi hier dans un Boeing 777 de la British Airways. Et l'équipage a interrompu le processus de décollage. Donc, ils étaient déjà sur le tarmac. Ils roulaient lorsque l'incendie s'est déclaré. Et ensuite, ça a pris vraiment très, très rapidement. Ils ont réussi, au moment où la photo est prise, on voit les flammes devant l'aile de l'avion. Heureusement, si ça avait été à l'arrière, avec les soutes de carburant, c'était fini. Et alors qu'on voit ces flammes-là et une épaisse fumée noire, ils sont encore en train de faire descendre les 159 passagers sur les toboggans en plastique. Il n'y a pas eu un seul blessé. Non, pardon, deux blessés, mais très légèrement, et l'avion a brûlé totalement. Totalement, c'est vraiment assez saisissant de voir cette image-là. Alors aujourd'hui, en page 6, vous savez que c'est l'ami Richard Martineau qui s'exprime. Alors aujourd'hui, quel est son sujet? Ça s'appelle « Avoir du flair ou pas ». Et lui aussi, il s'attaque à Stephen Harper. Bah, il s'attaque. En ce moment, de toute façon, ici au Québec, quel que soit le journal, on ne peut pas dire que M. Harper soit parmi les hommes politiques les plus estimés au pays. Il dit, M. Martineau, que Mario Dumont avait le talent de humer l'air du temps et de deviner ce que le peuple veut, mais que malheureusement, M. Harper n'a pas ce talent. Il l'a déjà eu, dit Martineau. Il a senti que les Canadiens tripaient encore sur l'arène, par exemple, aussi surréaliste que ça puisse paraître, mais il a perdu ce sens-là. Comment a-t-il pu passer, et il revient là, sur l'affaire du petit Aylan? N'a-t-il pas senti que les Canadiens avaient été émus aux larmes par la photo du petit noyé? Il dit Martineau en s'entêtant à ne pas accueillir plus de réfugiés syriens que ce qui avait été prévu avant la publication de la fameuse photo. Notre premier ministre a paru froid, a paru sans cœur, dénué de toute compassion. On aurait dit une caricature de lui-même. Pire, on aurait dit une caricature de sa caricature. En agissant de la sorte, Stephen Harper, dit Richard Martineau, a donné des munitions à tous ceux qui le dépeignent, peut-être faussement d'ailleurs, comme un homme insensible. Vous me direz que sur le fond, Harper avait peut-être raison. Je n'en suis pas sûr. Le Canada est un grand pays, on peut se permettre d'être plus accueillant, surtout en temps de crise. Mais mettons que ce soit le cas. L'homme est en élection, il joue son avenir politique, ne voyait-il pas qu'en se montrant aussi inflexible, il se tirait dans le pied? D'ailleurs, selon un sondage publié hier, le chef des conservateurs a glissé en troisième place derrière Justin Trudeau, qui ne veut pas que le Canada combatte l'État islamique, pourtant à l'origine de la crise des migrants en Syrie. « C'est bien beau avoir raison, » dit Martineau, « mais gagner, c'est encore mieux. » Généralement, j'aime beaucoup la page 19 du Journal de Montréal. Vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, c'est une page qui s'intitule « En 5 minutes ». Et ils font un espèce de gros plan, un zoom sur quelque chose dont on parle peu souvent. Et là, on va parler de mégalithes, c'est-à-dire on va parler de vestiges. Entre autres, les vestiges enterrés d'un grand monument préhistorique qui viennent d'être découverts sur le site de Durrington Walls. C'est à 3 km de Stonehenge. Des pierres qui sont disposées en cercle, qui entouraient une partie de ce que les scientifiques pensent être un lieu dédié à des rituels. Selon l'archéologue et historien Paul Garwood de l'Université de Birmingham, tout ce qui a été écrit sur ces anciens monuments et sur Stonehenge devra être révisé. Parce que ces pierres-là sont en train de nous montrer qu'on s'était trompé complètement. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une espèce de demi-cercle de craie naturelle. La craie dans le talus qui a été exposée afin d'accentuer cette espèce de dépression parce qu'ils ont vraiment trouvé dans le sol comme une dépression. Et on nous dit que ce site contient plusieurs petits cercles de bois. Et il est associé à une colonie néolithique récemment fouillée. Alors, on a fait des analyses géotechniques. Près de 90 pierres massives ont été découvertes en utilisant un radar de pénétration de sol traîné par un 4 roues. Les pierres se dressaient jadis à 4 à 4,5 mètres de haut. C'est donc ce qu'on appelle les fameuses monolithes, là. Elles formaient un monument en forme de demi-cercle. Et ce qu'on a découvert, c'est que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Durrington Walls était déjà connu comme lieu où les bâtisseurs de Stonehenge auraient vécu il y a 4500 ans, mais la découverte de pierres enterrées ici est une surprise totale. Un total de 200 pierres pourraient être retrouvées, soit deux fois plus qu'à Stonehenge. Alors on les voit, ces pierres, là, les unes à côté des autres, ça rappelle un petit peu, vous savez, ce qu'on trouve en Bretagne ou encore à l'île de Pâques, mm-hmm. avec ces espèces de menhirs et de dolmens, mm-hmm. donc qui ressemblent à des hôtels finalement. C'est vraiment passionnant, c'est en page 19 du Journal de Montréal aujourd'hui. Puis hier, il y a une nouvelle qui a bouleversé pas mal le milieu du sport et qui nous a tous d'ailleurs pas mal bouleversés, c'est l'affaire Clara Hughes, où tout d'un coup, on pensait qu'elle était parfaite, cette femme. Et puis là, patatras, qu'elle sort un bouquin et elle y fait, naïvement peut-être, mais avec... En tout cas, on ne sait pas trop, mais elle y fait des révélations qu'on n'aurait peut-être jamais voulu savoir dans ce livre à paraître. La seule Olympienne canadienne à avoir été médaillée aux Jeux d'été et aux Jeux d'hiver, qui retrace son parcours, nous dit Claude Villeneuve, blogueur au Journal de Montréal. Et alors, elle nous parle de cette enfance marquée par un père alcoolique. Elle nous parle du fait que psychologiquement, elle a été très, très atteinte. À une époque, elle était en dépression totale. C'est une fille qui, malheureusement, souffrait de boulimie, qui se faisait vomir, tout ça. Bon, elle a été aux prises avec tous ces problèmes-là. Elle en parle. Et puis, il nous dit, lui, Monsieur Villeneuve, ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas le sport, celui qu'on devrait tous savoir dans nos habitudes parce que c'est sain. Ce qu'on exige des athlètes ne l'est pas. On leur demande tellement, et c'est là qu'il veut en venir. Intitulé Let's Talk en anglais, cette initiative vise à faire tomber les tabous concernant la maladie mentale. La femme de fer de Winnipeg partage ici son expérience. Même moi, je peux souffrir de dépression parce qu'elle a souffert de dépression quasiment tout le temps dans sa vie. Quand on pense à Clara Hughes, et j'ai à côté de moi Daniel Rioux qui va participer dans quelques minutes à cette émission-là aussi. Daniel, quand on imagine cette femme-là, on imagine, OK, les performances, ouais. Mais moi, je la revois, les médailles au cou, avec cet énorme sourire.
C'est ça que j'allais dire, avec son beau sourire.
Oui, oui. Hein?
Et la voisine d'à côté.
Oui, c'est ouais. Ça, exactement. Ouais. Et donc, elle, finalement, au lieu qu'on s'insurge contre ce qu'elle a pris, elle, cette femme-là, ce qu'elle a voulu faire, c'est dire, attendez, là, on nous réclame tellement. Ouais. On est psychologiquement en détresse permanente et on nous demande toujours d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus haut, mais il y a un moment donné où on succombe et c'est ce qu'elle a fait aussi, cette femme. Moi, je trouve, personnellement, je ne l'en admire que plus encore.
J'allais vous dire la même chose.
Ah ben voyez-vous, ouais. On est bien d'accord avec Daniel que oui. Je vais recevoir dans quelques secondes et comme je le fais, est-ce qu'on a un petit nom? Non, peut-être pas. On a... Oui, d'accord. OK. Alors, on vous accueille comme il se doit, avec un petit jingle. Alors, on va y aller avec deux sujets. Je ne sais pas si Louise Mercier est partie, mais ça m'a fait sourire lorsque vous m'avez proposé ces deux sujets. Daniel, d'abord, bonjour Daniel Rioux.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien?
Oui, très bien, merci. D'ailleurs, moi aussi, j'ai souri quand j'ai vu le sujet de Louise. Alors, je me suis dit, j'arrive avec un burn-out amoureux. C'est peut-être beaucoup d'amour.
C'est peut-être beaucoup d'amour pour aujourd'hui. Mais par contre, les 5 moyens pour chasser l'anxiété quand on se sépare, ça, je trouve ça très bon. Après, on dirait qu'on a de la suite dans les idées.
Je sais pas. Hein, ça... Oui, je suis sûre.
Et puis l'autre sujet aussi, et ça je dis, ouvrez bien grandes vos oreilles parce que ça me semble tellement important. Moi, ça, c'est un de mes credos. Ça, c'est un sujet sur lequel je me bats, je me fais entendre sur toutes les tribunes. C'est pas de régime pour les enfants.
Absolument. Pas de régime pour les enfants. Être un guide pour les enfants, oui. Comme parents, et l'enfant aussi est responsable, mais surtout pas de régime.
Non, c'est ça. Oui. On commence par la séparation, par les 5 moyens de chasser l'anxiété?
Oui, sans problème.
Allez, on y va avec ça.
Alors, c'est un article de Nadine Deschenaux qui est paru en mai 2015 dans le magazine Youpa. Alors, elle propose 5 moyens pour chasser l'anxiété au moment de la séparation. Mm-hmm. Alors, après une séparation, beaucoup d'enfants, vous savez, vivent l'anxiété et a donc 5 beaux moyens. Le premier, ce serait d'avoir un calendrier clair. Pour ne pas être anxieux, votre enfant a besoin de savoir son horaire. Même si les jours de garde sont fixes, il peut oublier quand même. On fait un calendrier clair pour eux. On y inscrit maman ou papa sur chacun des jours. Mmh. Et puis ensuite, on multiplie les copies, une dans chaque maison, une copie dans l'agenda scolaire ou dans le sac. Déjà dans le sac de garderie, beaucoup d'enfants, séparent alors que les enfants sont jeunes, ou une au professeur, et etc. Peut-être chez grand-maman ou grand-papa. Ainsi, l'enfant sait toujours ce qui s'en vient. Un deuxième, l'objet de transition.
Oh. Oui, hein?
Bien sûr, votre enfant ne peut pas trimballer tous ses jouets d'une maison à une autre, mais il faut être flexible et compréhensible. Alors, on accepte tout de même qu'il apporte certains jouets et surtout son toutou préféré ou encore sa fameuse doudou.
Oui,
la fameuse doudou. Bref, tout objet dont il ne se sépare pas. Ça peut être Bert Pierney de Sesame Street. Il l'oublie, on accepte d'aller lui porter. Pour lui, c'est tellement important. J'imagine le petit.
On a tous l'image. Oui, absolument.
On a tous été petits.
Des
souvenirs qui
absolument.
Nous reviennent. Gérer nos propres émotions. Là, je m'adresse aux parents. Pour que notre enfant soit bien, on doit d'abord, comme parents, gérer nos propres émotions. Alors, il n'a pas à subir nos colères, nos tristesses.
Et tu lui diras que.
Tu lui diras que, puis écoute bien s'il dit que. Alors, s'il sent nos tensions émotives, c'est sûr que ça va le rendre anxieux, cet enfant. Il y a aussi, pas de drame. pas de drame. Quand notre enfant part avec son autre parent, on évite de tomber dans le mélodrame et dire à notre enfant qu'on va s'ennuyer de lui. Cette formulation accentue alors son anxiété
Et la culpabilité.
Et le place en conflit de loyauté. Un enfant, c'est l'amour inconditionnel de ses parents. Il pourrait croire à ce moment-là qu'il ne peut pas s'amuser avec son autre parent parce qu'il sait qu'on va s'ennuyer de lui. Alors, on évite de le placer dans une situation comme celle-là. On lui dit plutôt qu'on va penser à lui et qu'on est certaine qu'il va s'amuser. Ainsi, il va avoir le cœur un peu plus léger. Et finalement, toujours là, je suis toujours là pour toi, même si je ne suis pas présent devant toi. On rappelle à notre enfant que même si on n'est pas physiquement là, on n'est jamais bien loin. On peut se créer une ritournelle qu'on l'encourage à dire. Avant de se coucher, c'est un moment d'anxiété, le dodo, même quand on n'est pas là. Alors, ce sont des petits trucs justement pour éviter l'anxiété inutile.
On l'aura compris, Daniel Rioux est passionné par l'enfance, par l'éducation. Et vous avez d'autres passions aussi dans la vie. Entre autres, vous aimez et vous travaillez vous-même dans le milieu de l'immigration.
Oui.
En ce moment, le drame des réfugiés, c'est quelque chose qui doit vous toucher beaucoup.
Beaucoup. Ça a un impact aussi. Ça aura des impacts d'accueillir aussi. L'immigration, ça fait 15 ans, donc on voit les événements amènent des cohortes tellement différentes. Puis accueillir, c'est tellement agréable aussi, mais il y aura des impacts.
Ah oui, ça c'est certain.
On verra.
On aura l'occasion certainement, vous aurez l'occasion de nous lire un papier là-dessus. En attendant, dans quelques secondes, on va aller lire un papier sur le fait qu'il faut arrêter de mettre les enfants au régime. C'est tellement pas une bonne idée. Alors, mettre les enfants au régime.
Ben, c'est pas une bonne idée. Pas de régime pour les enfants. C'est rédigé par les nutritionnistes d'Extenso de l'Université de Montréal, qui, c'est un article paru dans le rapport annuel de la Fédération des comités de parents du Québec. Alors, votre enfant présente un surplus de poids, on en parle, et vous croyez que les régimes sont la clé? Non, pas si vite. Priver un enfant de nourriture ne fait qu'exacerber justement les problématiques de poids. En effet, la privation peut entraîner des répercussions néfaste, même sur la croissance. Il ne faut jamais oublier que les enfants grandissent. Et sur le développement de son autonomie, sur l'estime qu'il a de lui-même, ainsi que sur la relation qu'il entretient avec ses parents et avec la nourriture, d'où la boulimie dont on parlait.
Claire Hughes.
Oui. Alors, l'anorexie aussi.
L'anorexie.
En tant que parent, vous êtes responsable de la qualité des aliments que vous offrez à votre enfant. Et votre enfant, lui, est responsable de la quantité de nourriture qu'il ingurgite afin de respecter ses signaux de faim
et de satiété.
Saviez-vous que chacun, vous, moi, Mathieu en studio, on a un poids naturel et une silhouette uniques qui sont grandement déterminés par le bagage génétique. Et si vous mettiez toutes les chances de son côté à votre enfant afin qu'il puisse atteindre son poids santé, alors il y a des 5 conseils. Créez un horaire de repas et de collation. Alors, choisissez avec votre enfant les moments de la journée qui seront réservés aux repas et aux collations. Informez votre enfant qu'il pourra manger à sa faim, mais que pour ne pas gâter son appétit pour le repas suivant, il ne pourra pas, comme toute la famille d'ailleurs, manger en dehors de ses plages horaires. Alors, assurez-vous que votre enfant n'aura pas tendance à se suralimenter. C'est la suralimentation, même pour nous quand on cuisine, qui par crainte justement d'être privé de nourriture.
Exactement. Dans ces cas-là, il mange deux fois plus.
Deux fois plus. On a peur d'en manquer.
Exactement.
Deuxièmement, aidez votre enfant à écouter ses signaux corporels. L'enfant de moins de 2 ans écoute naturellement ses signaux de faim et de satiété. Pour l'aider à conserver cette précieuse aptitude qui est tout à fait naturelle, on lui permet de manger juste assez. Alors, manger à table, en famille, avec le moins de distractions possible. Alors, pas de télévision, pas de jeu, pas de tablette. Demandez à votre enfant de qualifier son niveau de faim et de satiété avant pendant et après les repas et servez-lui les portions adaptées à sa faim. Il faut l'aider à reconnaître ses signaux de faim. Tu sais, quand notre estomac va gargouiller dans quelques minutes, ben, l'enfant aussi, son estomac peut gargouiller. Ça baisse d'énergie. Et incitez votre enfant aussi à manger lentement et à déguster, à savourer les aliments.
Oui, puis sans compter que si vous le mettez au régime, il va être coupé de
il
ça.
Va être coupé.
Le corps ne saura plus...
Détecter
s'il a faim ou non. Moralité, il va devenir un trou sans fond.
Voilà.
Et c'est ça le hic.
C'est ça le hic. Et le dessert, entre vous puis moi, c'est permis. C'est bien connu, on le sait tous, même à notre âge, que les interdits mènent plus souvent qu'autrement à la surconsommation. Pourtant, plusieurs parents utilisent encore cette fameuse tactique infructueuse. Finis ton assiette, avoir un dessert.
Ben oui.
En parlant ici, on met le dessert sur un piédestal en le présentant comme une récompense s'il termine son assiette principale. Et il y a le goût d'aliments sucrés à ce moment-là. Mmh. Alors, peu importe ce que l'enfant mange en guise de mets principal, et peu importe son poids, on a donc tout intérêt à lui offrir une portion de dessert, par exemple un yogourt, un fruit, etc., en autant que ça contribue à sa croissance. Offrir des repas nutritifs faits maison, par-dessus tout, la clé d'une saine alimentation, c'est de cuisiner le plus possible ses aliments avec des légumes, des fruits, tout ça frais, et de modérer justement l'achat de produits qui sont transformés et qui contiennent souvent beaucoup de matières grasses, de sucre et de sel. Donc, on dose.
Pas très addictive.
C'est
un anglicisme, mais je trouve que le mot est juste.
Je pense que oui. Vous le savez, les enfants sont comme des éponges.
Oui.
C'est donc toute la famille qui doit emboîter le pas vers un mode de vie sain et justement et actif aussi. Zéro commentaire sur le poids. Ça, c'est le dernier conseil qu'on peut dire. C'est zéro commentaire sur le poids, bien qu'il soit souvent bien intentionné. Oui. Les commentaires sur le poids n'ont pas leur place. Alors, car il ne faut pas stigmatiser davantage les enfants sur leur surpoids.
Exactement.
Ça mine l'estime de soi, tout en favorisant l'insatisfaction corporelle. On ne se trouve jamais assez petit, trop gros, on ne sait jamais. Et les comportements alimentaires qui deviennent malsains. Alors, il faut miser sur les forces et les qualités de votre enfant et laissez-le atteindre son poids naturel.
Exactement.
Voilà. Pas de régime pour les enfants.
Pas de régime pour les enfants, non. Daniel. Surtout que souvent, le môme qui est tout mince, il mange souvent plus que le môme qu'on va mettre au régime. Alors, du coup, le môme qui est au régime, il ne va pas comprendre. Il va dire, mais attendez, là, ma petite copine, là, Marceline, là, elle mange ce qu'elle veut, puis elle est mince. Alors,
absolument.
Imaginez-vous les pauvres gamins. Merci beaucoup, Daniel Rioux. Tout ça, c'est fort intéressant. J'ai hâte de vous retrouver à l'occasion d'une prochaine émission. Très, très bientôt.
Très bientôt.
Merci. À l'international, maintenant, la lutte contre le terrorisme. On écrit ce matin, c'est Marc Thibaudeau, dans la presse, que le gouvernement britannique, vous le savez sans doute, a autorisé à la mi-août une frappe de drone en Syrie contre des ressortissants du pays parti rejoindre les rangs du groupe État islamique. Eh bien, figurez-vous que le gouvernement britannique se voit pressé de préciser les bases légales de son action. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme craignent que le Premier ministre David Cameron ait décidé d'emboîter le pas à l'administration américaine en recourant aux drones pour éliminer le présumé terroriste et qu'il juge légitime de procéder contre les cibles de son choix sans supervision véritable, incluant lorsqu'elles sont d'origine anglaise. Il semble que le Premier ministre dispose d'un pouvoir secret et incontestable qui lui permet de frapper n'importe où dans le monde sans avoir à donner de détails, ironise notamment Kat Craig, responsable juridique de Reprieve, une ONG britannique qui dénonce les exécutions extrajudiciaires réalisées à partir de drones. Selon Mme Craig, Londres semble avoir décidé d'adopter sans réserve la rhétorique des États-Unis et de copier son action en recourant à ces appareils pour éliminer sans procès du haut des airs des individus jugés suspects, incluant dans des pays où il n'est pas engagé militairement. Et puis je lisais aussi dans un autre papier que tout le monde s'interrogeait à savoir pourquoi est-ce que c'est pas M. Rachid, comment il s'appelle, Al-Assad, celui qui dirige le pays, qu'on ne bombarderait pas parce qu'il est quand même aussi et beaucoup à l'origine de ce qui se passe là-bas. ne sais pas si l'amie Louise est encore là. Oui, allez-y, allez-y, mon amie Denise. Vous pouvez sortir de ce studio sans problème, où j'ai bien hâte que vous reveniez. D'ailleurs, la semaine prochaine, je l'espère, ou une autre. Au revoir. Le pape, figurez-vous, simplifie l'annulation du mariage. On a parlé d'amour, on a parlé de séparation. Et ben pouf, j'en rajoute une couche. Hier, le pape François a assoupli la procédure de déclaration de nullité de mariage qui permet aux catholiques de se marier une deuxième fois à l'Église. La semaine dernière, il avait déclaré que tous les prêtres étaient dorénavant habilités à accorder l'absolution à une femme ayant subi un avortement. Les deux annonces font partie d'une stratégie pour le jubilé de la miséricorde qui débute le 8 décembre prochain. Pauvre Daniel Rioux, que j'ai appelé Denise. Je ne sais pas ce que j'ai avec les prénoms, mais quelquefois Mathieu devient Marcel. Enfin bon, c'est comme ça, mais personne ne m'en veut et c'est le principal. Merci beaucoup Daniel et à très bientôt. Allons-nous vers une nouvelle ère élisabéthaine, mes amis? Vous savez que la reine Élisabeth II dépasse maintenant les 23 226 jours que sa trisaïeule Victoria aura passé au pouvoir. C'est un article qui est paru dans Le Monde et qui a été relayé par Le Devoir ce matin, écrit par Philippe Bernard, qui nous dit que les historiens de demain se référeront possiblement à une nouvelle ère élisabéthaine à propos du Royaume-Uni de ces dernières décennies, au même titre que l'époque victorienne évoque la révolution industrielle, la domination de l'Empire britannique et une certaine hypocrisie. Eh bien, probablement pas, tant que le statut de la monarchie et la place du Royaume-Uni dans le monde ont changé depuis tant. Pardon, aurais-je dû dire, non pas dans, tant le statut de la monarchie et la place du Royaume-Uni dans le monde ont changé depuis deux siècles. Mais l'extraordinaire record que le pays célèbre ce mercredi plonge les Britanniques dans cet étonnant exercice d'introspection nationale. La reine Élisabeth II, qui a succédé au trône le 6 février 1952, dépasse maintenant les 23 226 jours que sa trisaïeule, la reine impératrice Victoria, aura passé au pouvoir entre 1837 et 1901. Avec 63 ans, 7 mois et 2 jours sur le trône, elle devient la souveraine britannique au règne le plus long de l'histoire. Waouh! Sous couvert de... Oh, remarquez, là, on parle énormément d'histoire et là, je vois l'heure qui tourne. Mais en tout cas, saluons cet anniversaire d'Élisabeth. Ben, non pas cet anniversaire, mais cet événement qui sera évidemment souligné beaucoup dans le pays. Au Royaume-Uni, je vais finir par le dire. Merci. Quelques mots quand même sur le drame des réfugiés. On nous dit que l'Allemagne est prête à accueillir plus de migrants encore. L'Allemagne reste la destination rêvée de la plupart des migrants, un choix qui devrait encore être conforté par les dernières déclarations de la chancelière allemande Angela Merkel et de son ministre de l'économie Sigmar Gabriel. Nous avons besoin au final d'un système ouvert de quotas pour la répartition obligatoire des personnes qui ont droit à un asile, a déclaré Mme Merkel en jugeant que plafonner à l'avance le nombre de migrants n'avait aucun sens. Apparemment, tous ceux qui sont arrivés à Berlin hier ne sont déjà plus à Berlin. Ils ont déjà été répartis partout en Allemagne, dans des familles qui les ont accueillis. C'est quelque chose, hein? Mais ben, bravo! Et vous écoutez toujours Canal M et c'est toujours Clotilde Seille en votre compagnie. Clotilde Seille et les voix de service qui l'entourent. Pour l'instant, je vais rester seule juste quelques minutes pour poursuivre cette émission avec quelques actualités culturelles. Tiens. Alors, aujourd'hui, oh, la Madone est là, la Madone, Madonna est là ce soir au Centre Bell et tous les yeux sont tournés vers Madonna et Montréal. La star dévoile son nouveau spectacle en première mondiale ce soir au Centre Bell. Je me souviens, ça, quand je l'avais annoncé il y a quelques mois, quand on avait annoncé qu'elle allait passer par Montréal, j'avais dit, vous allez voir, quand on va arriver à cette date-là, on va se dire, mais c'est pas possible, le temps passe tellement vite. Eh bien, nous y sommes à cette date et en ce 9 septembre, Madonna est à Montréal et elle est ce soir en première mondiale au Centre Bell. Et Marc-André Lemieux qui nous dit dans le Journal de Montréal que des médias de différents pays couvriront cette première mondiale en sol québécois. Ce coup d'envoi d'une ambitieuse tournée qui visitera 4 continents au cours des 7 prochains mois. La presse mexicaine, suédoise, belge et italienne sera présente, nous indique le promoteur du spectacle Evenco. Du côté des États-Unis, le New York Daily News, l'Associated Press, Interview et Cosmopolitan seront sur place. Chez les fans de Madonna, l'excitation est palpable. Hier, plusieurs admirateurs de l'artiste rôdaient autour du Centre Bell dans l'espoir d'enregistrer un extrait des répétitions qui battent leur plein depuis lundi. Résultat, au cours des 48 dernières heures, de nombreux enregistrements non autorisés des générales sont apparus sur Internet. Sur l'un d'entre eux, la chanteuse reprend « La vie en rose » d'Edith Piaf. La superstar a aussi répété quelques vieux succès comme « Holiday »,« Material Girl »,« Deeper and Deeper in Love »,« Don't Live Here Anymore » dans des versions revues et corrigées. Alors, toujours selon des enregistrements pris dans les entrées de l'amphithéâtre, les spectateurs pourront également entendre « Justify My Love », un succès datant de 1990, remixé avec « Sex », une des chansons phares de l'album « Rebel Heart » qui est sorti au printemps dernier. Petit détail, Evenco ignore à quelle heure Madonna se pointera le bout du nez ce soir. On sait toutefois que Diplo, qui assure la première partie des 2 concerts au Centre Bell, sera sur scène à 20h. Le DJ américain a co-réalisé plusieurs chansons du dernier disque de Madonna. La chanteuse s'est arrêtée à Montréal lors de ses 3 dernières tournées en 2006, 2008 et 2012. On devrait encore une fois avoir un show époustouflant, j'en suis certaine, déclare la porte-parole d'Evenco, Christine Montreuil. Alors, ça aurait pu s'appeler Paul à Montréal hier. En fait, on parle de Paul à Québec. Toute l'équipe de ce film, vous savez, qui a été tourné, inspiré de la bande dessinée de Michel Rabagliati, long métrage réalisé par François Bouvier avec toutes sortes de grands comédiens qu'on voit d'ailleurs ici sur la photo. Il y a Karine Vanas, il y a Julie Le Breton, il y a Gilbert Sicotte. Il y a quoi d'autre encore, qui d'autre plutôt, en tout cas toutes sortes de monde. Ils sont venus, ils sont tous là pour célébrer cette sortie, notamment Louise Portal et puis François Letourneau, évidemment celui qui porte sur ses épaules le poids, le rôle de Paul. Et c'est fou parce que quand on voit la BD, quand on a la chance d'avoir ses yeux et de la voir, le personnage est tellement bien représenté par François Letourneau qu'il n'a même pas besoin de faire semblant de porter des lunettes. Il porte les mêmes que Paul et il a le même petit sourire pincé. Il a la même façon de se déplacer. En tout cas, bref, c'était vraiment le bon choix. Alors, avant la présentation du long métrage, les producteurs André Rouleau de Caramel Film ainsi que le tandem Karine Vanas, Nathalie Brigitte Bustos, les productrices associées, ont souhaité la bienvenue au public, multipliant les coups de chapeau à messieurs Rabagliati et Bouvier, ainsi qu'aux membres de la production et même à leur famille, car comme le disait Madame Bustos, ce film est d'abord une histoire de famille. Karine Vanas a eu des mots particulièrement chaleureux à l'endroit de François Bouvier, qui a-t-elle lancé, a tenu le projet, non seulement à bout de bras, mais aussi à bout de cœur, au cours des 5 années nécessaires pour le mener à terme. Bouvier, a-t-elle dit, a su apporter à la fois précision, douceur et un langage cinématographique. Alors, je vous rappelle que le film tiré de cette BD, Paul à Québec, va sortir sur nos grands écrans le 18 septembre prochain. Tiens, puisqu'on parlait de BD, on en parle tellement rarement du 9e art, j'ai trouvé ce papier qui fait la une du Devoir ce matin sur 147 auteurs RES qui prennent position et qui se sont unis contre le sexisme en BD. C'est Fabien Déglise qui signe ce papier dans le Devoir. Il faudrait peut-être l'écrire dans un phylactère en lettres capitales, sur fond rouge, la bande dessinée féminine n'existe pas. Quoi qu'en disent les marchands de bouquins qui cherchent à alimenter le mythe avec leur marketing genré pour le moins intéressé. Ça, c'est un groupe composé de 147 auteurs francophones de bande dessinée qui a décidé de le crier haut et fort aujourd'hui pour dénoncer le sexisme ordinaire et la misogynie sournoise qui se serait, selon elle, emparée du 9e art. Le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, c'est son nom, veut au passage rappeler que la création est mue par le talent, non par le sexe, et qu'il serait temps de mettre fin à cette discrimination douteuse et rabaissante. Plusieurs auteurs du Québec, dont Caton, Julie Doucet et Julie Rochelot, mais également d'autres plumes majeures du corpus contemporain en Europe, Chloé Cruchaudet, Marjane Satrapi, Katel Müller, entre autres, appuient le coup d'éclat. La bande dessinée féminine n'est pas un genre narratif, peut-on lire dans une charte qui vient d'être mise en ligne par le collectif pour mieux y exposer, en quelques points, les raisons de leur colère. L'aventure, la science-fiction, le polar, le romantisme, l'autobiographie, l'humour, l'historique, la tragédie sont des genres narratifs que les femmes auteurs maîtrisent sans avoir à être envoyées à leur sexe. Définir les goûts et les aptitudes des gens selon leur sexe biologique est un préjugé qui ne repose sur aucune réalité. Les études en neurobiologie et psychologie expérimentale démontrent que le développement cognitif se fait de manière égale chez les deux sexes. Les membres du collectif disent en avoir soupé des questions toujours sexuées auxquelles elles doivent régulièrement faire face, mais également d'un cadre nourrissant un clivage homme-femme déplacé dans un univers historiquement occupé par des hommes, comme bien d'autres milieux d'ailleurs. C'est toujours Fabien Déglise qui s'exprime. Et là, il y a une citation de la bédéiste Julie Rochelot qui va cet automne livrer une nouvelle BD qui s'appelle « La petite patrie » aux éditions de La Pastèque. Et elle dit donc à Fabien Déglise, « Avec ce collectif, nous ne souhaitons pas créer un nouveau fossé, mais plutôt faire de l'éducation populaire pour mettre un terme à ces regards misogynes, à ces commentaires dégradants, pour pouvoir enfin passer à autre chose. » Depuis que je suis toute jeune, dit encore cette jeune dessinatrice, on pense me faire un compliment en me disant que je dessine comme un homme, mais c'est faire abstraction d'une réalité qu'il est peut-être temps d'admettre. Dans la bande dessinée, il n'y a pas des auteurs femmes et des auteurs hommes, il y a des auteurs. Point. Et puis, ça fait la une du Devoir ce matin, l'OSM qui précise les contours de sa tournée aux États-Unis. On en parlait hier dans les journaux. Et puis, hier, c'était le lancement de la tournée. Et je vois ça aussi dans le Devoir, mais j'essaie de... Là, je suis en train de me mélanger les pinceaux, mes pauvres amis. Où en étais-je? En tout cas, peu importe. Hier, c'était lancement... c'était fin de la saison pour l'OSM avec du Debussy. Et puis, comme je suis perdue, je vais arrêter là parce que je ne suis pas du tout à la bonne page. On va mettre un petit peu de musique, puis je vais me remettre à la bonne page, puis ça va aller beaucoup mieux. Thank you. Alors oui, ça faisait la une, rentrée lyrique à l'OSM, ça faisait la une du Devoir ce matin, ce mercredi 9 septembre. C'est avec l'opéra de Claude Debussy, Péléas et Mélisande, que Kent Nagano ouvrait hier soir à la Maison symphonique de Montréal, sa 10e saison à la tête de l'Orchestre symphonique de Montréal. Vous voyez comment j'étais perdue, hein. Moi je parlais de fin de saison, c'était début de saison. Et c'est la Québécoise Hélène Guilmette qu'on voit en photo d'ailleurs là à la une, qui incarnait Mélisande dans cette présentation concertante, autrement dit sans mise en scène, sans décor, du chef-d'œuvre de Debussy aux côtés du ténor suisse Bernard Richter. Alors voilà donc ce qui faisait la une, ce qui complète aussi les nouvelles culturelles pour ce matin, alors que déjà dans le studio, Christiane Campagna s'est pointé le bout du nez pour d'autres nouvelles, entre autres par rapport?
Ben en fait, c'est plus élaboré. Nous sommes le mercredi comme ça, je viendrai vous parler de nouvelles dans le domaine techno.
D'accord. Une petite flûte pour vous accueillir, Christiane. Alors, de quoi voulez-vous nous parler?
Bien, tout d'abord, une nouvelle parue dans le branchez-vous.com sous la plume de Laurent Lassalle. Google répond aux questions que vous ne vous êtes jamais posées. Pour l'instant, c'est strictement si vous utilisez le site anglophone. Mais une nouvelle fonction cachée de l'incontournable moteur de recherche pourrait venir affecter votre productivité aujourd'hui. Êtes-vous de nature curieuse, Clotilde?
Oui, absolument. Justement, c'est pour ça que là, je suis tout oui.
Si c'est le cas et que vous ne savez tout simplement pas quoi demander à Google, il existe désormais un raccourci, vous écrivez dans la barre de recherche « I'm feeling curious ».
Ah oui?
Tout simplement, vous cliquez
en français,
sur « Recherche ».
Ça marche pas.
Pas encore.
OK.
Et là, ça répond à une question.
Ouais.
Cette fois-ci, quand M. Lassalle l'a essayé, c'était « Who was the first to walk on the moon? » Et puis là, on donne la réponse.
Armstrong. Non?
Oui, c'est Neil Armstrong et Buzz Aldrin, voilà.
Est-ce que j'ai le droit de revenir en deuxième semaine?
Absolument. Et là, vous pouvez ensuite refaire « I'm feeling curious », il va répondre à une autre question que vous
okay.
vous posiez. Peut-être pas. Donc, à partir de la version anglaise du portail pour l'instant. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ask another question » afin d'obtenir la réponse à une autre question qui ne vous aurait jamais traversé l'esprit, et ainsi de suite. Et il y en a d'autres comme ça, faudrait peut-être les essayer si vous avez la version anglophone. Faudrait que j'essaie ça. Il existe aussi I'm feeling wonderful pour voir les merveilles du monde et I'm feeling stellar pour voir des photos du cosmos.
Ah, OK. Est-ce que vous l'avez essayé avec une question qui vous est...
non
venait
pas?
Non,
pas encore, parce qu'il aurait fallu que je change mes préférences pour aller vers la version anglaise. Toujours dans Branchez-vous avec Laurent Lassalle, qui est le directeur de la publication.
Mm-hmm.
Les inscriptions à Ashley Madison se portent bien malgré la controverse médiatique. Alors, des centaines de milliers d'internautes se seraient inscrits à Ashley Madison la semaine dernière. En fait, c'est une nouvelle de la fin août, donc au moment où la récente fuite de renseignements confidentiels faisait les manchettes. Donc, selon Laurent Lassalle, ça rentre dans la catégorie « Parlez-en en bien, parlez-en en mal ».
Mais parlez-en.
Puisqu'alors que le site de rencontre destiné aux relations extra-conjugales est toujours aux prises avec les contre-coups liés à la cyberattaque dont elle a été victime en juillet dernier, la situation semble n'avoir aucun effet dissuasif pour ses activités. En fait, il y a probablement des milliers de gens dans le monde qui ont découvert l'existence du site et dont on sait en plus maintenant que la plupart des comptes féminins étaient faux.
Ben, alors absolument. Absolument. Finalement, c'était encore... En tout cas, bref. Non, je me refuse à faire des commentaires là-dessus, effectivement. Bon.
Mais j'ai une autre nouvelle, si vous êtes plus du genre... Oh, mais quand même... Non, je vais revenir à celle-là parce qu'il a quand même cité Mark Twain, ça vaut la peine.
Oui.
Les récents rapports médiatiques de la mort d'Ashley Madison sont grandement exagérés, a déclaré le dirigeant de l'entreprise, tel un Mark Twain des temps modernes.
Oh!
Ah, c'était beau! Thank you.
avons de la suite dans les idées quand même. Louise Mercier, un petit peu plus tôt à l'émission, nous a beaucoup parlé d'amour. Et là, vous, vous nous arrivez avec un email amoureux aurait plus d'impact qu'un message vocal.
Voilà, c'est un article paru dans le Slate.fr le 8 septembre, donc hier. Selon une étude américaine, le courrier électronique est plus riche en sentiments que les messages laissés par téléphone. Le message vocal est-il condamné? Pour communiquer leurs états amoureux, les plus jeunes lui préfèrent la méthode plus planquée du texto ou de l'email, jugée moins intimidante. Mm-hmm. La sensation de malaise que l'on associe aux messages vocaux pourrait d'ailleurs expliquer qu'on soit beaucoup moins démonstratif à l'oral que par écrit. Mm-hmm. C'est du moins ce qui ressort d'une étude réalisée par des chercheurs américains de l'Université de Bloomington dans l'Indiana, comme le rapporte le site Newser. D'après leur recherche, nous serions beaucoup plus romantiques et expressifs en nous exprimant par email que par téléphone. Du même coup, notre message amoureux aurait beaucoup plus de chances d'être entendu et de faire de l'effet. Pour en arriver à une telle conclusion, ces chercheurs ont choisi 72 personnes âgées de 18 à 34 ans. Ils leur ont demandé d'envoyer des emails et de laisser des messages vocaux à caractère amoureux ou purement informatif. Ils ont concomitamment... Non, ça, c'est toujours le fun d'avoir
ça. On l'aime, ce mot-là.
Placés sur leur visage des capteurs sensoriels relevant les mouvements musculaires indicatifs d'émotions négatives ou positives. Et là, j'ai appris ça. Et des capteurs étaient également placés sur leurs pieds pour mesurer leur excitation.
Ah, oui!
C'est là qu'on mesure ça.
Eh ben... On pensait pas. Ben oui, c'est vrai. Oui, prendre son pied. Oui.
Bravo, bravo.
Bravo, bravo, Mathieu.
Il en ressort que l'envoi d'emails amoureux générerait plus d'émotions que le message vocal. L'étude insiste sur le fait que les messages écrits sont en général plus positifs, avec des mots plus fouillés et choisis que les messages vocaux, comme le rapporte Pacific Star. Selon les chercheurs, dont les propos ont été également repris par le Daily Mail, cet enrichissement du contenu vient en partie de la volonté de compenser la froideur du média. Parce que comme on sent que ça ne peut pas transmettre le ton de la voix, on est plus précis dans ce qu'on raconte. Et aussi le fait que le message vocal, bon, il s'enregistre d'une prise. On peut décider si on l'efface et on recommence. Là, maintenant, on a cette option-là. On ne peut pas aller le retravailler.
Non, c'est ça, exactement. Exactement. Alors que tout ce qui est par écrit, quand même, effectivement, on peut... Mais moi, ça m'amène à quand même... Je me faisais la remarque, je possède un téléphone intelligent, comme beaucoup de gens, qui me sert à tout. Sauf à téléphoner, finalement. Je reçois de moins en moins, je ne sais pas vous, mais on est de moins en moins contacté par téléphone. Tout se fait soit par texto, soit par courriel, quoi.
Oui, et moi, ça s'est fait de manière très naturelle. Je n'ai jamais été l'amie du téléphone, justement. Je préférais faire 3000 à pied de parler au téléphone. Et l'écrit, justement, cette façon-là de structurer son propos, tu sais, comment on l'amène doucement comment on le nuance... J'ai déjà fréquenté un anglophone.
On va tout savoir.
Je passais des heures. Bon, finalement, ça n'a pas été très concluant, mais on va dire que c'était cet individu et non pas les anglophones. Mais j'ai passé des heures sur le site du dictionnaire Webster à essayer pour être sûre d'avoir le mot juste. Mm-hmm. Parce que parfois, il y a des mots qui sonnent pareil, qu'on pense pareil en anglais puis en français, qui n'ont pas tout à fait le même sens. Non. Je ne voulais pas me mettre un pied dans la bouche. Ou même si c'est un email.
Non, je comprends.
Et c'est un avantage. Et j'arrivais à m'exprimer, par contre, beaucoup plus clairement à l'écrit que lorsqu'on se voyait en personne et que je devais m'exprimer spontanément comme ça en anglais.
Je comprends et j'adhère et j'abonde. Christiane, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il paraît qu'il y a une chanson virale là, qui a été écoutée par je ne sais plus combien de milliers de personnes. Et ça s'appelle « I want my Canada back ».
J'en ai entendu parler par vous, Claudia.
Ben, oui.
Plutôt ce matin, c'est moi qui vous l'ai trouvé.
Oui, c'est vrai. et qu'il l'avait fourni à l'ami Mathieu. Moi, j'aimerais bien écouter la chose, s'il vous plaît. « I want my Canada back. I want my Canada back. » October 19th, we all can vote, get our Canada back. I want my Canada back. I want my Canada back. October 19th, we all can vote to get our Canada back. On peut vraiment faire n'importe quoi. Hein.
J'espère que ce monsieur n'est pas fonctionnaire fédéral comme le scientifique qui a écrit oui. Harper Man.
Exactement, espérons-le. On se retrouve la semaine... Non, on se retrouve demain.
On se retrouve tout à l'heure pour le
on
bulletin
On se retrouve tout à l'heure. Et puis, je précise que demain, c'est vous qui allez être à ce poste, à ce micro, pour accueillir les voix de service et pour animer les voix de service. Alors, vous allez voir, on a beaucoup de plaisir. On a eu un fond noir, vraiment, aujourd'hui. C'est un vrai régal. Pour l'instant, on s'en va à l'actualité régionale. Alors, en région, ah oui, j'oublie toujours la petite finale. Je me fais avoir à chaque fois. On va commencer par le droit. L'ami Denis Graton signe un papier aujourd'hui qui s'intitule « Conduire, mais on ne fait que ça, s'il vous plaît ». On sait tout de suite qu'il va faire référence au cellulaire, au volant. Apparemment, en Outaouais, eh bien, mes amis, on ne pourra vraiment conduire et que conduire lorsqu'on sera au volant. Je vous explique, l'amende sera drôlement salée, c'est du moins ce que nous apprend Denis Graton, si vous êtes surpris avec un cellulaire au volant. On apprenait la semaine dernière la mise en vigueur de nouvelles règles de sécurité routière en Ontario. Le 1er septembre dernier, l'amende pour l'utilisation illégale d'un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil électronique derrière le volant est passée de 280 à 490 $, en plus de 3 points d'inaptitude qui s'ajoutent au dossier du conducteur. Ça commence à faire mal, mettons, dit Denis Graton, parce qu'en plus des 490 $ à débourser, les 3 points d'inaptitude se traduisent par une hausse significative du coût annuel de quoi ? Eh bien oui, de vos assurances automobiles. Il fallait que ça se fasse, a dit le porte-parole du service de police d'Ottawa, et on ne peut que lui donner raison quand on sait que depuis 5 ans, 40% des collisions sur la route dans la capitale nationale ont été provoquées par des chauffeurs distraits et que plus de 6400 personnes ont été blessées. Voilà pourquoi Denis Graton applaudit ces nouvelles mesures, mais il se pose la question, changeront-elles le comportement des conducteurs? Ça reste à voir, car bien des sanctions déjà assez sévères existaient avant le 1er septembre. Il ne passait pas, bien que ces nouvelles, aurais-je dû dire, ces nouvelles sanctions étaient déjà très sévères avant le 1er septembre, et bien il ne se passait pas une journée sans qu'il aperçoive Denis Graton, et ça nous est arrivé à tous, un conducteur texté au volant ou même parler dans son cellulaire tout en conduisant. Moi, je dois dire que lorsque ça m'arrive et que je vois que la personne est en face, j'aime pas bébé ça, c'est vrai. À la une du soleil ce matin, cérémonie du ruban bleu au centre Vidéotron. Hier, sur la photo que j'ai sous les yeux, on voit de gauche à droite le président de Québecor, Pierre Dion, le maire Régis Labeaume, le premier ministre Philippe Couillard et le ministre Sam Ahmad, ainsi que le député André Drolet, sans partenaire et sans regret. Malgré son récent appel à trouver des alliés pour l'achat d'un club, Québecor préfère poursuivre le travail seul pour l'instant. Et j'ai même étonnamment à vous lire sur le sujet une chronique de Madame Mylène Moisan, que vous aurez d'ailleurs l'occasion d'entendre dans 2 semaines exactement, jour pour jour, dans le cadre de l'émission « Des livres plein les oreilles ». Et Mylène Moisan qui écrit ce matin « Et si les Nordiques tombaient du ciel ?» Teterboro est un bled du New Jersey, pas si perdu que ça, qui compte 18 habitants à 19 km de Manhattan. Teterboro est surtout connu pour son aéroport civil, d'où vont et viennent des dizaines de jets privés. Et Gary Bettman n'habite pas très loin. Et quand le grand Manitou de la Ligue nationale de hockey a un rendez-vous important, il s'envole de Teterboro, où il loue souvent des avions de flex jet, dont les vols commencent par les lettres LXJ. Et c'est de là qu'il est parti le matin où il est venu à Winnipeg pour annoncer le retour des jets. Depuis le milieu de l'été, je vous entends maugréer qu'on n'a pas vraiment eu d'été. Les vols entre Teterboro, Québec et Montréal se sont multipliés. Ça ne veut peut-être rien dire, mais Jocelle Cauvier, avec une poignée d'irréductibles partisans des Nordiques, y scrute des signaux annonciateurs du retour de l'équipe 20 ans après être partie pour le Colorado. De chez elle, tout au bout de la Gaspésie, Jocelle passe environ 2 heures par jour sur le site flightaware.com à traquer en direct les avions qui pourraient alimenter les rumeurs de tractation. On est entre 10 et 15 à surveiller avec un noyau de 4 ou 5 personnes qui y consacrent autant de temps que moi. En se coordonnant, ils arrivent à assurer une filature presque 24 heures sur 24. Et faut le vouloir, hein? Bravo! Et là, la caricature dans la tribune, signée Hervé Philippe, nous présente nos deux sans-emploi et sans-abri qui sont toujours sur leur banc, l'un lisant le journal et l'autre en train de penser. Celui qui lit le journal dit « Ah là, Québec veut accueillir plus de réfugiés syriens et demande à Ottawa de collaborer ». Et l'autre lui répond « Je ne crois pas que Harper puisse entendre à toujours faire l'autruche. Il doit avoir les oreilles complètement bouchées par le sable ». Et sur Canal M, c'est l'émission Les Voies de service qui se prolonge. Avant de parler de sport hein, avec Kevin Breton, que diriez-vous de quelques opinions? D'abord, tiens, celle-ci. Investissez rapidement, écrit Guillaume Grenier. Il est enseignant en histoire, monde contemporain à l'école secondaire Chaumédé de Maisonneuve et il fait partie des gens qui ont écrit au ministre de l'Éducation. À qui il dit « Cher ministre, j'enseigne l'histoire. Tous les jours, je suis au front pour l'augmentation de la sagesse de l'humanité en élevant la génération d'aujourd'hui. Je suis un spécialiste du domaine dont vous êtes le patron. Comme nous avons à cœur le succès de la même entreprise, je vous offre ici quelques suggestions pro bono. Pour les spécialistes du développement social et économique, tous les spécialistes du développement social et économique vous affirmeront qu'une société plus éduquée est plus rentable. Les citoyens plus éduqués sont généralement plus en santé, commettent moins d'actes criminels et participent plus activement à la vie de leur communauté que ceux ayant un parcours scolaire restreint. Ils occupent aussi généralement de meilleurs emplois. La richesse de notre société repose sur le génie des grands innovateurs, mais aussi sur les techniciens et les spécialistes issus de notre système scolaire, capables d'augmenter non seulement leur propre richesse, mais aussi celle des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Or, quand je suis entrée dans ma classe cette semaine et qu'il faisait 43 degrés, c'est là que toute fenêtre ouverte, je me suis mis à douter. En effet, demander à des élèves de rester assis 75 minutes dans une telle chaleur est complètement inhumain. J'enseigne dans un quartier merveilleux, mais amoché. La criminalité, la pauvreté et le faible taux de scolarité parentale ont mis un frein aux espoirs de plusieurs jeunes esprits brillants et vaillants. Pourtant, chaque année, nous réussissons à donner à une quarantaine de jeunes au crépuscule d'une adolescence mouvementée le courage, les outils, les connaissances et l'envie de briguer un diplôme d'études secondaires et même l'accès à des études supérieures et à une vie meilleure. L'an prochain, si tout va bien, nous aurons une cohorte record de 66 finissants. Nos élèves de secondaire, 4, sont le fruit de plusieurs années de travail de l'ensemble du personnel de cette école, des enseignants au directeur, des éducatrices à l'infirmière, du conseiller d'orientation au concierge, des secrétaires aux élèves eux-mêmes. Alors quand je suis entrée dans cette classe où il faisait 43 degrés pour enseigner à 36 adolescents, certains face au mur faute de place, j'ai commencé à douter de vos compétences, comme si l'environnement dans lequel ils grandissent n'était déjà pas suffisamment empreint de problèmes, violence familiale, pauvreté, malnutrition et drogue, voilà qu'ils doivent subir des cours d'histoire obligatoire dans des conditions dignes d'un goulag saharien. Nous avons entre les mains les fruits de plusieurs années d'efforts et on dirait que vous travaillez activement à les saboter. juste avant le dernier droit. J'aurai aussi une autre lettre à Monsieur le ministre à vous lire, celle de Anne-Emmanuelle Lejeune. Cette jeune femme est enseignante, je dis jeune parce qu'elle est enseignante, depuis 21 ans, et elle a travaillé sur deux continents. Elle écrit elle aussi au ministre de l'Éducation. Elle lui dit « J'ai enseigné le français en Belgique. En 1999, j'ai immigré au Québec. Je dois mon premier poste d'enseignante de français dans l'école publique à un directeur d'origine française qui a compris mon choc culturel. Un élève a soutenu qu'au Québec, on disait des « chevals ». Et que moi, de française, je n'avais pas à changer la langue québécoise. J'ai cru que le sol se dérobait sous mes pieds, moi qui ai suivi un cours de linguistique historique et qui ai étudié le latin et le grec. Dans la salle des profs, des enseignants affirmaient que cheval se dit au Québec, cheval au pluriel. Jusqu'à ce qu'un prof de français, à quelques mois de sa retraite, corrobore mes dires après avoir imprimé la page grammaticale du mot cheval du site de l'Office québécois de la langue française. Moult réflexion sur l'idée que le savoir écrire n'a plus d'importance. Un peu comme si l'ignorance valait autant que les connaissances m'ont poussé à réagir récemment au propos du ministre François Blais que je cite « Sur le français au Québec, on ne peut pas faire de concessions. Quand on regarde la performance des élèves au Québec en littératie, quand on compare avec le Canada et l'OCDE aux grands examens internationaux, c'est là qu'on a une faiblesse. La langue, c'est la pensée. Il y a un lien direct. » Rigueur intellectuelle, culture générale riche et maîtrise de la langue de Molière sont les ingrédients de la recette gagnante pour faire du métier d'enseignant un métier respectable et respecté. Enseigner, ce n'est pas animer, c'est instruire en animant, dit cette personne, ce professeur, Madame Lejeune. Monsieur le ministre, mon vécu illustre la raison pour laquelle je partage votre avis au sujet de la formation des enseignants et de la maîtrise de la langue officielle du Québec. Mais je vous invite à ne pas faire de généralisation abusive. Il y a plusieurs enseignants qui maîtrisent bien leur langue maternelle. J'en connais aussi qui ont une mauvaise orthographe, mais qui sont des pédagogues hors pair. Je reste indulgente devant ceux qui ont conscience de leurs forces et faiblesses, car ce sont leurs forces qui les pousseront à pallier leurs faiblesses en acceptant la révision linguistique d'un tiers expert. Je vous saurais gré de mettre de l'avant votre plan de revalorisation de la formation des enseignants tant sur l'accessibilité au métier que sur la maîtrise du français au sein de toutes les filières du bac en éducation. La langue française est un merveilleux outil de pensée, un bien collectif convergent et diagonal. L'estropier, c'est abîmer la société et comme l'indique Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Et puis, Francine Pelletier s'exprime dans Le Devoir aujourd'hui comme elle le fait tous les mercredis. Et ça commence par une citation qui dit ceci. « Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres, envoyez-moi vos hordes blotties qui rêvent de liberté, les rebuts de vos rivages surpeuplés. Envoyez-les-moi les déshérités, que la tempête m'apporte. » C'est de Emma Lazarus, la poète américaine Emma Lazarus, auteure des lignes qui ornent la célèbre statue de la liberté, aurait pu écrire ces vers « Avant-hier », dit Madame Pelletier. En fait, ils ont été écrits en 1883, bien avant que l'Europe se mette à cracher des morts, des mutilés et des exilés par milliers. La notion du Nouveau Monde comme terre d'accueil a toujours signifié ce que ce continent, arraché des mains de ses premiers habitants, rappelons-le, a de plus noble. L'idée d'être la somme des différentes parties du monde les plus affligées de surcroît a quelque chose de grand et d'audacieux. Évidemment, entre la bande-annonce et la réalité, il y a parfois des écarts notoires. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Canada n'a accepté que 5 000 Juifs, moins que tout autre pays occidental, malgré l'horreur que l'on sait. « Aucun, c'est déjà trop », avait fameusement affirmé le directeur de l'immigration Frédéric Blair à l'époque. Le premier ministre d'alors, Mackenzie King, y était pour beaucoup, Puis le pays s'est refait une beauté en acceptant 37 000 réfugiés hongrois en 1956, 11 000 tchèques en 1968, et grâce à la pression populaire, plus de 100 000 boat people vietnamiens entre 1978 et 1985. Aujourd'hui, sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, c'est le Québec qui redore le blason canadien, tant que faire se peut. 60% des quelques 2000 réfugiés syriens acceptés à ce jour ont été accueillis au Québec, un nombre très insuffisant, comme on le sait, depuis qu'un enfant flottant tête baissée sur les rives turques nous a rappelé à nos devoirs élémentaires d'être humains. Le monument que propose d'ériger, et là j'en viens à son titre qui s'appelle « Mer outrage », le monument que propose d'ériger le gouvernement Harper sur les rives du Cap-Breton vient souligner, non sans ironie, le gâchis conservateur dans cette crise humanitaire. Baptisée pompeusement « Mer Canada », la Vierge aux bras tendus doit mesurer 30 mètres de haut, l'équivalent d'un édifice de 8 étages et coûter 60 millions de dollars. Un monument stalinien de la vie de plusieurs, ce colosse de granit, n'est pas, comme on pourrait le croire, une version canadienne de la Statue de la Liberté, un symbole de générosité et de bienvenue aux immigrants, fidèle aux valeurs militaristes du gouvernement conservateur, qui n'en démord pas, même confronté au cadavre d'un enfant de 3 ans. La statue se veut un hommage aux soldats morts outre-mer, comme si le pays ne comptait pas déjà des centaines de cénotaphes de ce genre. Qu'à cela ne tienne, les conservateurs projettent d'ériger le monument pour le 150e anniversaire du Canada en 2017. À mon avis, il n'y a pas de symbole plus éloquent de la suffisance de ce gouvernement, un qui pourrait d'ailleurs bien marquer sa tombe à lui. Tout ce qui a pu nous enrager de Harperman, l'arrogance, la mesquinerie, les demi-vérités, se retrouvent encapsulés dans cette mer de granit, comme d'ailleurs dans la réaction du Premier ministre devant la mort d'un enfant qui aurait pu, qui aurait dû se retrouver au Canada. La réponse à la crise humanitaire qui secoue l'Europe n'est pas, comme le veut Stephen Harper, plus de bombes, mais bien plus d'humanité. Voilà ce qu'entre autres écrivait ce matin Francine Pelletier dans Le Devoir. Alors je vais tout de suite accueillir mon camarade Kevin Breton et ensemble on va voir ce qui s'écrit dans le milieu du sport. Comment ça va, Kevin?
Ça va super bien. Et toi, Clotilde?
Écoute, ça va bien. Je t'avouerais qu'après 3 heures, là, ça...
3 heures en studio. Ouais, on va quand même... J'aurais dû t'emmener un verre d'eau, quelque chose.
Tu sais que j'ai même pas eu le temps.
La prochaine fois, là, je vais venir avec mes Gatorade, comme ça, ça sera thématique.
C'est gentil.
Placement de produit numéro 1.
Honnêtement, j'ai même pas pris le temps de boire. J'ai pas pris le temps de rien faire. Alors, merci beaucoup. Ce sera très apprécié.
Je vais essayer de parler plus pour te laisser le temps de te réhydrater avec ta salive.
C'est gentil. C'est ce que j'arrête pas de faire.
Alors... Hey, j'ai choisi un article de RDS.ca qui va me donner un certain coup de vieux. Aujourd'hui, c'est un reportage de Christian L. Dufresne qui concerne le corps arrière de l'équipe de football du Vert et Or, qui était une jeune recrue lors de mon temps à l'université et qui entame cette année sa dernière année de corps arrière avec le Vert et Or. Donc, moi, je me rappelle d'avoir été le voir jouer puis que c'était une verte recrue et qu'il n'était pas très, très, très bon.
Ah non, en plus.
Il était alors âgé de 19 ans. Et là, il aspire aux grands honneurs. Donc, son nom, c'est Jérémy Rock. Et on dit dans l'article qu'il a 2 souhaits pour sa dernière saison de football universitaire avec le Vert et Or. De 1, remporter un premier championnat pour l'Université de Sherbrooke, chose qu'ils n'ont jamais faite, et garder sa barbe jusqu'à la toute fin, parce que là, on le voit pas à la radio, mais il est vraiment déjà rendu avec une barbe des séries.
OK, déjà.
Et la saison n'est pas commencée.
OK.
Donc, pour le deuxième de ses souhaits, le corps arrière de 5e année n'a pas besoin de l'aide de ses coéquipiers, mais pour le premier, les autres joueurs des Renards, qui est le petit sobriquet qu'on donne aux joueurs des Verts et Or, du Vert et Or, et lui devront élever leur jeu d'un cran.
Oui, parce que face au Carabin...
Exactement, là, inévitablement, une conquête du titre passera soit par des victoires face au Carabin ou au Rouge et Or en éliminatoire. Et il y a une très bonne rivalité entre les Carabins de Montréal et le Vert et Or de Sherbrooke pour avoir assisté à plusieurs matchs dans les estrades. Là. Ouais. C'est pas aussi fort que la rivalité entre Bishop et Sherbrooke où là, il y a la Coupe du Maire qu'on appelle. Donc là, l'homme barbu poursuit en disant « Il y a 5 ans, on est venu ici pour accomplir quelque chose et on ne l'a pas encore accompli. C'est notre état d'esprit aux autres joueurs de 5e année et moi, c'est de gagner un championnat et tout ce qui va arriver à l'extérieur de ça ne sera qu'un bonus. » Au cours de ses 12 premières années d'existence, le programme sherbrookois n'a accédé que 2 fois à la Coupe Dunsmore. En 2010, le Vert et Or, alors dirigé par André Bolduc, a vaincu les Carabins en demi-finale. Il avait ensuite livré une belle bataille à l'Université Laval, mais le Rouge et Or avait triomphé par la marque de 22-17. L'autre occasion d'avancer en demi-finale canadienne de l'Université de Sherbrooke a eu lieu en 2012. Dans toute l'histoire du Vert et Or, l'édition 2015 est probablement l'une des formations les plus matures et expérimentées que le programme a connues.
J'y crois pas.
Tu crois pas? J'y crois pas. Ça va être les 40
ans. Ben moi, j'ai encore un sentiment d'appartenance très fort. Puis tu vas me voir à l'automne avec mon chandail du Vert et Or arrivé à la station.
Bon, alors,
t'en faudrait une du carabin, puis on pourra prendre une belle photo. Donc, les entraîneurs et joueurs sont donc très excités en vue de la prochaine saison. On les comprend. Rock, âgé de 23 ans, a raconté au RDS.ca. Le mot d'ordre cette année, c'est de mettre du temps, de m'amuser et d'en profiter. On est beaucoup de gars dans ma situation. On est assez mature et on approche cette saison en voulant tout laisser sur le terrain. L'entraîneur-chef de l'équipe, David Lessard, a pour sa part ajouté « On dit souvent que les cycles universitaires vont avec ton corps arrière. C'est sûr que cette année, c'est l'apogée de Jérémy. C'est excitant pour lui, pour nous et nos partisans. » Bien, Jérémy Rock a joué à merveille son rôle de leader à l'attaque lors du premier match, c'est à l'ouverture de la saison le 4 septembre dernier. Il a amené sa troupe à une victoire de 37-0 face aux Stingers de l'Université de Concordia.
Ouh, ça fait mal.
Sa tenue lui a d'ailleurs valu de mériter le titre de joueur offensif de cette ligue du réseau de sport étudiant du Québec. Donc, on se le tient pour dire que le titre, la saison, je vais t'emmener les triomphes et les victoires du Vert et Or.
Tiens, parlons de ça, il y en a un autre qui a été primé cette semaine. C'est M. Drogba qui a été nommé joueur de la semaine. Il est le premier joueur de la MLS à inscrire un triplé à ses 2 premiers matchs. Nous en parlions hier. Alors, votre deuxième sujet, mon ami.
Oui, absolument. Mais en fait, j'ai des autres nouvelles en bref.
D'accord.
L'équipe canadienne de soccer masculine a atteint le 4e tour des qualifications en prévision de la Coupe du monde de la FIFA en 2018.
Okay.
Ils ont battu le Belize 4-1. Au début, j'ai lu un peu trop vite. Oh mon Dieu, ils ont battu le Brésil. L'équipe canadienne est vraie, mais c'est bien le Belize. Et non, le Brésil. Et ne me demandez pas de pointer sur une carte où se trouve cette région du monde. Je ne sais pas si Christiane, qui est
Mathieu,
en studio, en a une idée, ou Mathieu. Là, mais
ouvrez votre micro, là, parce que je pense qu'on ne vous a pas entendu. Il sait où c'est, lui.
C'est tout juste à côté du Guatemala.
Ben, Colin.
L'Amérique centrale.
Wow. Ben voilà.
Puis est-ce que tu sais s'ils sont bons au soccer?
Absolument.
Absolument pas, je ne sais pas. Absolument pas, ils ne le sont pas.
Je ne sais point.
Enfin, bref, le Canada, qui est classé 102e au monde, fera partie du groupe A lors du 4e tour. L'avant-dernière étape des qualifications de la CONCACAF, est-ce que tu as une idée, Clotilde, où se classe le Belize si le Canada est 102e au monde?
Il est peut-être moins 45e.
128e.
Oh!
Donc, c'est pas tant un exploit.
Non,
mais
c'est
moi,
ça.
J'ai appris qu'il y a plus de 100 pays au monde, en fait. Dans ma tête, il y en avait. C'est pas vrai. J'ai une autre nouvelle en bref, si j'ai encore le temps, Clotilde.
Oui, regarde. Oui, on a un petit 30 secondes encore.
Excellent. Ben, c'est juste pour vous souligner que l'équipe de volleyball masculine ont été défaits d'entrée de jeu au tournoi de la Coupe du monde lundi à Hiroshima. La troupe de l'entraîneur-chef Glenn Hogue a perdu 3-1 contre l'Italie. Le Canada sera de retour sur le terrain aujourd'hui afin d'affronter la formation égyptienne. Il y a un représentant de Sherbrooke, décidément, c'est une thématique sherbrookoise, Nicolas Hogue, qui fait partie de la formation de volleyball.
Merci beaucoup, Kevin.
C'est un plaisir.
J'adore ça.
J'adore ça.
On aime tous ça. Juste une chose quand même pour vous dire que Serena Williams au tennis a été sans pitié pour sa sœur Venus, qui lui a pris un set, mais d'après ce qu'on a dit, l'autre lui a volontiers donné pour reprendre un petit peu des forces et planter sa frangine au 3e set. Voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse aujourd'hui. C'était la 2e émission de Les Voix de service. Je suis contente parce que généralement, la 2e, c'est toujours l'émission catastrophe. Eh bien, pas du tout. Voilà, ça n'a pas été ça. Moi, je vous retrouve vendredi. Demain, je m'éclipse, mais je vais céder la place à l'ami Christiane Campagna. D'ailleurs, je lui laisse déjà la place pour le bulletin du handicap. Merci à tout le monde, Mathieu, Kevin, Christiane et toutes les autres voix de service. Merci, au revoir et bonne journée.
le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Capagna et voici vos manchettes en ce mercredi 9 septembre. À Sherbrooke, des traverses sonores au coin King et Jacques Cartier. Les Chemira font de petits miracles auprès des enfants autistes. En Europe, en France même, l'État condamné en Syrie pour mauvaise prise en charge d'enfants handicapés. Et Chantal Petitclerc annonce une tournée pour faire la promotion du sport paralympique. Les représentations du Centre de réadaptation de l'Estrie, le CRE, auront porté leurs fruits. Deux traverses avec feu sonore seront installées au coin des rues King West et Jacques Cartier et une autre sera ajoutée au coin de Wiget et Jacques Cartier pour assurer la sécurité des personnes ayant une déficience visuelle. Une demande en ce sens avait été déposée au conseil municipal en février. Il avait alors été mentionné qu'une intersection complètement protégée présentait un danger pour les personnes à déficience visuelle puisque le bruit qui leur permet normalement de naviguer disparaît. Certaines personnes s'étaient retrouvées désorientées en plein milieu de l'intersection et avaient dû compter sur un bon samaritain pour les aider à compléter leur traversée. Dès l'implantation des nouveaux feux, il sera possible de traverser entre l'institution Desjardins et la station-service Esso et entre la station-service et le restaurant Thai Zone. Pour ceux qui voudraient rejoindre la cité du parc, il faudrait longer le trottoir jusqu'à la rue Wiget où la troisième traverse avec feu sonore sera installée. À cet endroit, le virage à droite sur feu rouge sera interdit en tout temps. Nathalie Côté, ingénieure coordonnatrice et chef de division par intérim à la division infrastructure, transport et construction à la ville de Sherbrooke, explique que des feux sonores existent déjà ailleurs sur le territoire. Nous avons analysé l'intersection et il n'était pas possible d'ajouter des traverses sonores aux quatre approches. Au niveau technique, il faudrait des sons différents parce que tous les feux sont au rouge en même temps. Nous ne voulons pas trop pénaliser les automobilistes non plus. En fonction des déplacements des personnes présentant une déficience visuelle, nous pouvons recommander deux traverses. La durée de la traversée ne sera pas modifiée pour autant. Un investissement de 35 000 $ sera nécessaire. La conseillère Annie Godbout s'est inquiétée d'un investissement important sans savoir si les personnes concernées utiliseront les 10 feux, notamment en raison du détour que représente la traversée par l'intersection de la rue Wiget. Mme Côté a rapporté que les décisions sont basées sur les déplacements des membres du CRE. L'intersection King West et Jacques Cartier est l'une des plus achalandées à Sherbrooke avec un débit d'environ 48 000 véhicules par jour. Elle est aussi au cœur des correspondances d'autobus du réseau urbain. La Fondation MIRA attribue désormais plus de 100 chiens par année à des enfants vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et devrait atteindre un record de 125 guides canins en 2015. Réorientant sa mission, l'organisme attribue de moins en moins de chiens à des personnes aveugles puisque le besoin diminue. Par contre, les demandes de parents d'enfants autistes ne cessent d'augmenter. Et pour cause, les chiens, souvent de gros toutous labernois, aident énormément les enfants, selon ceux qui participent au programme de la Scola Mira, fait sur mesure pour les jeunes qui vivent avec un trouble de l'autisme. Le chien a aidé à surmonter bien des difficultés, estime Valérie Banville, dont le fils Jules a un chien Mira depuis 6 ans. Mais surtout, il est plus joyeux, constate sa mère, qui renouvellerait l'expérience sans aucune hésitation. Car le chien guide aide sur plusieurs plans, notamment à réduire l'anxiété chez les enfants, mais aussi chez les parents qui vivent souvent avec un stress très sévère, explique le psychologue et directeur de la recherche et du développement chez Mira, Noël Champagne. « J'ai été assommé par les résultats », explique-t-il lorsque questionné sur l'efficacité des fidèles bêtes. « Il y a une différence significative chez ceux qui ont un animal », affirme le psychologue, qui a effectué des recherches en analysant la salive des membres de la famille afin d'en mesurer les niveaux de stress. Le sommeil est aussi un facteur important. Les enfants sont souvent aux prises avec des terreurs nocturnes et ont de la difficulté à dormir. Le chien les calme et les mauvais rêves diminuent. Parfois, des enfants qui ne parlaient pas du tout se mettent à le faire au contact de l'animal pour l'apprivoiser. L'autisme est caractérisé par des troubles persistants au niveau de la communication et de l'interaction sociale et se manifeste parfois par des comportements restreints ou répétitifs d'intensité variable. Mais le chien n'est pas une panacée, ce n'est pas un remède miracle, prévient M. Champagne, notant que certains enfants n'ont pas de réaction particulière en présence d'un chien. Les bêtes ont toutefois changé la vie de bien des familles. Le programme pour les enfants autistes qui existe depuis 2003 est encore méconnu malgré les efforts. Et des commerçants refusent encore l'accès aux familles avec le chien, pourtant bien identifié, car ils ne comprennent pas son rôle, ayant l'habitude de faire des exceptions pour les non-voyants uniquement. Méconnu auprès de la population, le programme ne l'est toutefois pas auprès des parents. Il a ainsi deux fois plus de demandes que la capacité à former et à attribuer des chiens. On devrait pouvoir diminuer les délais, assure M. Champagne, confiant, précisant que le nombre de chiens donnés à de jeunes autistes a déjà doublé, n'étant que de 50 il y a quelques années. Le tribunal administratif de Paris, le TA, a condamné le 15 juillet l'État à indemniser 7 familles d'enfants en situation de handicap. Pour 2 d'entre elles, en raison de l'éloignement de leur enfant accueilli en Belgique, et pour les autres, en raison d'une absence ou d'une insuffisance de prise en charge en France. Le placement d'un enfant handicapé dans un établissement éloigné du domicile de ses parents à l'étranger constitue un préjudice. C'est ce qu'a estimé le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 15 juillet. Il statuait sur le cas d'une jeune fille autiste accueillie depuis 2006 en Belgique. La maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne l'y avait orientée. Le même jour, le tribunal de Paris a rendu un jugement similaire dans une autre affaire. Cette fois, le jeune garçon était accueilli en Belgique depuis janvier 2014. L'État devra lui verser 7 500 € ainsi que 5 500 € à chacun de ses parents. Ces deux décisions font l'office de nouvelle jurisprudence des préjudices subis par les personnes autistes exilées en Belgique, estime vaincre l'autisme, l'association ayant soutenu les familles dans leur combat judiciaire. Au-delà de l'autisme, cette jurisprudence risque d'être élargie aux personnes handicapées et ou âgées exilées à l'étranger, faute de structure en France. Le 15 juillet encore, 5 autres familles n'ayant pas d'enfants exilés en Belgique ont obtenu gain de cause pour absence ou insuffisance de prise en charge devant ce même tribunal administratif de Paris. Elles ont donc bénéficié d'une indemnisation au titre du préjudice moral. Ces premières condamnations ne sont qu'une première phase, souligne Vaincre l'autisme. 14 plaintes supplémentaires sont devant le tribunal de Paris. Et d'autres familles continuent à saisir Vaincre l'autisme pour intégrer cette plainte collective. D'autres familles pourraient suivre leur exemple étant donné le manque cruel de places en établissements et services. À un an des Jeux paralympiques de Rio 2016, Chantal Petitclerc, la nouvelle chef de mission de la délégation canadienne, profite de ce compte à rebours pour annoncer une tournée pan-canadienne afin de promouvoir le sport paralympique d'un bout à l'autre du pays. « Je souhaite que mon rôle de chef de mission puisse contribuer à mieux faire connaître le sport paralympique, à changer les perceptions et surtout à dévoiler les athlètes derrière les résultats et les médailles. La tournée me permettra de visiter chaque province et plusieurs grandes villes pour mettre en lumière les athlètes qui évoluent aux quatre coins du pays. » Chantal Petitclerc quitte pour Rio à la mi-septembre pour une visite officielle en tant que chef de mission. Elle profitera de son séjour pour évaluer les installations, visiter les sites de compétition et rencontrer les chefs de mission des autres pays. Lors de sa nomination, Petitclerc s'était donné comme priorité de voir à la préparation pré-jeu des athlètes ainsi que de bâtir et diriger une équipe de soutien qui assurera un environnement de succès optimal pour les athlètes. La chef de mission compte assurer le rayonnement des athlètes canadiens à travers le pays, en plus de faire la promotion du sport paralympique et de l'équipe paralympique canadienne. La tournée pan-canadienne débutera cet hiver pour se terminer au printemps. Chantal Petitclerc compte visiter une dizaine de villes canadiennes, dont Montréal, Vancouver, Halifax et Calgary, pour ne nommer que celles-là. Chaque arrêt prévoit des visites dans les écoles, une partie de basketball en fauteuil roulant, des rencontres avec les athlètes et entraîneurs de la région, une allocution et des rencontres avec les élus municipaux. La chef de mission est la porte-parole officielle de l'équipe paralympique canadienne. Elle est une mentor, une leader et une inspiration pour les athlètes. Alors, c'était votre bulletin du handicap sur Canalem, la radio de Vues et Voix. Le bulletin ainsi que les liens vers les nouvelles et organismes mentionnés sont disponibles au vuesetvoix.com et vous pouvez nous envoyer vos nouvelles au canalem@vuesetvoix.com. Bonne journée tout le monde!